Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde. On va parler du nombre de mots, du stress que ça peut engendrer, autant pour les gens qui écrivent des manuscrits avec beaucoup de mots que les gens qui écrivent des manuscrits plus petits. J'ai décidé d'inviter des gens des deux côtés, en fait, aujourd'hui, afin qu'on parle de ce sujet-là. Et je vais laisser mes invités se présenter pour que vous sachiez un petit peu de quel côté ils sont, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils écrivent. Alors, on peut commencer par Nel.
Hello! Donc moi, je m'appelle Nel. Je suis sur un compte qui s'appelle La Part des mots sur Instagram. Moi, j'écris depuis un peu plus de 10 ans, je dirais. J'ai commencé avec... comme beaucoup de gens, je pense, avec des fanfictions. Et j'ai commencé à rédiger mon premier roman en 2014. Et là, je vais publier mon premier roman chez Hachette Roman, qui s'appelle L'Engrange-temps et qui va sortir en septembre. Et voilà.
Est-ce que, Paul, tu veux enchaîner ?
Alors, donc, moi, je m'appelle Paul Varichon, du coup. Donc, j'ai 24 ans. Et j'écris de la science-fiction post-apocalyptique. Et du coup, j'ai publié donc, en auto-édition chez Librinova un premier tome du coup, qui s'intitule donc, Les Maudits du Gouffre de Saphir. Donc, c'est le premier tome de la saga Les Chroniques de la Terre au Soleil Noir. Et voilà, donc ça fait un peu plus de 4 ans que j'écris. Donc moi, j'ai commencé avec du script et du scénario. Donc voilà, je viens de là. Et puis, j'ai basculé sur du roman il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Pour ce projet spécifique, pour ce projet-là en particulier. Et du coup, voilà, donc il est sorti en e-book en octobre, et puis là maintenant en broché depuis mars, et du coup là je suis en tournée de dédicace un peu dans toute la région, et jusqu'à la fin de l'année j'ai à peu près une vingtaine de dates de planifiées. Et donc moi je serai plutôt du côté de la team roman court, donc voilà, ça va être une longue saga, donc je pourrais aussi peut-être un peu parler du côté long, mais voilà, ça sera surtout des romans courts, donc je serai du côté de ceux qui écrivent de petits manuscrits. Voilà.
Et pour le coup, moi, je n'ai pas précisé, mais je suis comme Paul, je suis du team roman court, enfin semi-court. Je ne sais pas faire long.
Parfait. Mali, pour toi ?
Alors, salut, moi, c'est Mali, du compte Mali Allen sur Instagram. J'ai 23 ans, j'écris depuis que j'ai 8 ans à peu près. J'ai écrit beaucoup de livres, et notamment des sagas. Donc, je suis du côté des romans très longs et des séries interminables. J'ai le tome 1 de ma saga fantasy Passeur de rêve qui a été publié en maison d'édition. J'ai récupéré mes droits. Et je tente l'aventure avec un one-shot, qui est gros aussi, mais que j'essaie de réduire un peu, contemporain, feel good romance, que je publie en auto-édition fin septembre 2023. Et j'essaie un peu de travailler sur ce côté roman trop long, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà.
Mamaki, est-ce que tu veux y aller ?
Oui, alors mon prénom c'est Mamaki, mais mon pseudo partout sur les réseaux c'est Sous le ciel. Moi je vais représenter la team des petits manuscrits, parce que présentement je suis en réécriture d'un projet dont le premier jet faisait 60 000 mots, et je pense qu'au final il sera pas beaucoup plus long. En ce moment, mon projet, c'est du contemporain avec une dose de magique réalisme, mais sinon, j'ai déjà écrit de la science-fiction et du thriller dans le passé.
Parfait. Et Liana, pour finir?
Donc, moi, c'est Liana, pour l'instant. C'est probablement pas mon nom de plume définitif, parce que je suis encore en train d'y réfléchir, et pour l'instant, vu que j'ai pas été publiée, c'est pas gênant, mais je pense que ça va changer. Alors moi j'ai commencé à écrire quand j'étais ado. Comme Nel, j'ai commencé par la fanfiction parce que ça me rassurait de pas avoir à créer tout de A à Z. Le problème c'est que quand on écrit des fanfictions, ben, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout à s'inquiéter du nombre de mots, et j'ai pris la très mauvaise habitude d'écrire des choses très, 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 très longues. Donc voilà, moi je fais partie de la team roman très très long. Et puis donc là en ce moment, donc je n'écris pas une fanfiction, j'écris le premier roman que je compte essayer de faire publier en maison d'édition, ou peut-être en auto-édition, je ne suis pas encore tout à fait décidée, et c'est une romance dans un monde de fantasy.
Ok, parfait. Et de mon côté, si vous écoutez le podcast très souvent, vous savez que ben, je suis du côté des romans longs. Donc, le seul roman que j'ai écrit pour l'instant fait 180 000 mots. J'avais terminé mon premier jet à 160 000, mais j'en ai ajouté 20 000. Donc, voilà. Et j'écris de la fantasy. Alors, on va commencer par une question plutôt simple. Avant d'écrire vos romans, est-ce que vous aviez prévu que vos manuscrits soient aussi longs ou aussi courts? Est-ce que vous aviez comme un peu anticipé ce serait quoi le résultat?
Moi, je me dis, je vais me lancer, j'ai levé la main. moi, de mon côté, en fait, je ne sais pas comment ils font les gens qui sont capables de prévoir leur nombre de mots. Moi, je sais que je prévois par chapitre. Et après, c'est vrai que généralement, j'estime mes chapitres entre 2000 et 3000 mots. Mais c'est vrai que je ne sais jamais combien va faire mon roman. Je ne sais pas s'il va faire 60 000, je ne sais pas s'il va faire plus, s'il va faire moins. Et c'est vrai que j'ai une tendance, finalement, depuis que j'ai vraiment commencé à écrire, que mes romans, au premier jet, fassent 50, 60 000 mots. Parce que finalement, je vais très vite dans mes actions. Et c'est vraiment en réécriture après que je vais décider si oui ou non je les pousse. Mais c'est vrai que généralement, j'ai une manie d'aller très vite dans ce que j'écris. Et je sais que ça peut être, surtout en fantasy, parce que c'est de la fantasy que j'écris. Des fois, ça peut être pas problématique, mais c'est vrai que ça peut permettre de pas autant se focaliser sur le world building. Donc, mais après, voilà, ça dépend des histoires aussi.
Moi, je me permets de rebondir là-dessus parce que moi aussi, je fais des petits manuscrits du même nombre de mots, sauf que je sais pas pourquoi. Moi, je suis très jardinière, je ne planifie que très peu. Pourtant, à chaque fois que j'ai commencé un projet dans ma vie, j'ai toujours un peu exactement visé le nombre de mots avec lequel le premier jet allait se terminer. Donc, comme mentionné, je pense, mon projet actuel, je visais 60 000 mots, j'ai fini avec comme 65 000 mots le premier jet. Les projets dans le passé que j'ai pas complétés, ben, y en a un que je visais 75 000 et j'ai dû m'arrêter à 50 000 à cause d'un problème, mais il me restait 25 000 à écrire, j'en suis pas mal sûre. Et donc, je sais pas, je planifie rien, mais c'est comme si, je sais pas ça vient d'où, demandez-moi pas ça vient d'où cet instinct-là, mais je me dis, oh, ça va peut-être être ce nombre de mots-là, puis ça finit souvent par être ça, j'ai aucune idée pourquoi.
Ouais. Je comprends ça. Ben, avec mon premier jet, ça m'a fait ça aussi. J'ai comme pris le guess 160 000 et c'était ça, mais je sais pas trop. T'sais, c'est juste une intuition. Je sais pas si pour les prochains, ce serait ça.
Mm-hmm. Ben alors, honnêtement, je vous envie parce que jamais j'ai pu... Enfin, après, ça a été une... Pour moi, le nombre de mots ou la taille du manuscrit, ça a été une considération très, très tardive. C'est-à-dire que avant les réseaux sociaux... ou avant que je fasse la formation LICAR que j'ai faite en 2021, ça faisait longtemps que j'écrivais, voilà, j'avais aucune idée du nombre de mots minimal ou maximal, et en fait j'ai été au-dessus de ce qu'ils disaient en tout cas dans la formation LICAR comme nombre maximal, j'étais bien au-dessus, parce qu'ils donnent à peu près 50 000 mots, ils disent que c'est vraiment énorme. Moi, sur ma première saga que j'ai commencé à écrire à 16 ans, j'ai pas un seul tome en dessous de 160 000 mots. Et je l'ai écrite un peu... En fait, j'ai beaucoup chapitré. Enfin, j'ai fait un plan. Mais de base, j'avais même pas prévu qu'il y ait autant de tomes. Et au fait, au fur et à mesure, ça s'est développé comme ça. J'ai même coupé des livres, enfin, coupé des tomes parce qu'on m'avait dit que c'était trop gros. Mais en fait, c'était plus logique. Enfin, vraiment, le nombre de mots ne m'a jamais préoccupée. Jusqu'à récemment, où ça commence à me stresser beaucoup maintenant. Et du coup, j'essaie de travailler là-dessus et de rester plus dans les standards, mais depuis que je pense à la publication et surtout depuis que je suis sur les réseaux sociaux.
C'est marrant parce que moi, quand j'écris, ça part tout de suite. Au début, j'ai une petite idée, et puis après, ça prend des proportions mais gigantesques à chaque fois. Et puis à la fin, je me dis non, non, et puis je finis toujours par couper, et puis finalement revenir un petit peu à quelque chose de début. Donc ça fait un espèce de mouvement un peu bizarre, je sais pas, d'accordéon. Voilà, ça part d'une petite idée, et puis après, ça prend des proportions énormes, et après, ça revient à quelque chose de raisonnable. Et du coup, moi, c'est ce qui fait que je suis un petit peu dans les deux, c'est-à-dire que ma saga, elle est gigantesque, parce que là, tout ce que j'ai prévu d'écrire, il y en a vraiment beaucoup. Juste, j'avais créé un premier arc narratif qui faisait 200 000 mots, donc j'ai tout écrit une première fois, mais c'est découpé en plusieurs petits romans courts. Donc en fait, je suis dans les deux cas de figure en même temps. Là, j'ai pas réussi à revenir à quelque chose de réduit. Donc mon premier tome, par exemple, il fait 25 000 mots, donc c'est tout petit, c'est un roman court, ça fait 80 pages, ça se lit en 1 heure et quart. Mais voilà, après la saga, elle, elle va faire, je sais pas, au final, ça risque d'arriver dans les 400 500 000 mots, quand tu auras tous les tomes. Les uns à la suite des autres. Donc, ouais, moi, j'arrive pas. En fait, c'est un peu bordélique ma façon de venir. Je sais jamais en avance où c'est que je vais arriver. Même si au début, je planifie, je me dis là, il faudrait que je fasse un truc court, etc. Parce que c'est plus simple. Etc. Mais après, ça a toujours tendance à prendre l'ampleur. Je me dis ah oui, je peux faire une suite. Après, il y a l'origin story. Après ci, après ça. Et puis, du coup, ça finit toujours par devenir gigantesque. Et c'est toujours difficile de revenir à quelque chose de simple et de réduit, je trouve.
Mais du coup, moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu, est-ce que, pourquoi tu ne lis pas tes tomes ensemble? C'est qu'en fait, séparément, ils n'ont rien à voir?
Alors,
Le fait
c'est
que...
une bonne question, mais du coup, en fait, c'est des, là sur mon début de saga, c'est des romans courts, et à chaque tome, on va à d'autres endroits du monde, et en fait, c'est un autre groupe de protagonistes. Donc, il y a là, si tu
Ah, c'est
veux, il y a
ça.
la trame commune qui se construit, il y a les liens entre ces groupes de personnages qui sont en train de s'installer, mais voilà, c'est un groupe de protagonistes différents à chaque tome pour l'instant, avant qu'ils se regroupent, et du coup, ouais, je peux pas faire. Un seul gros bloc d'un coup. Bon, après, quand tu auras plusieurs tomes de sortie, il y a des moments où j'ai prévu de faire des intégrales. Il y a des points clés de l'intrigue qui vont permettre où je vais pouvoir arrêter quelque part l'histoire et du coup faire un tome plus gros qui va englober tout un tas d'histoires. Mais voilà, pour l'instant, c'est des histoires séparées en fait. Parce qu'à la base, ça devait être des nouvelles en fait. Mais après, j'ai basculé sur le format roman court du coup, parce que ça a pris un peu de la taille aussi.
De mon côté, donc moi j'ai toujours su que j'écrivais des histoires très longues puisque voilà, j'ai un certain nombre quand même de fanfictions ou de nouvelles qui déjà bon, plus vraiment dans la catégorie nouvelles vu la taille qu'elles font. Donc voilà, je sais que j'écris des pavés, hein, faut dire ce qui est. Et donc là sur le projet actuel, j'ai essayé de me dire que j'allais écrire une histoire courte. Donc j'ai fait mon plan de chapitre. J'estime en général à peu près mes chapitres. La moyenne, c'est 4 000 mots. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, mais ma moyenne, à moi, c'est 4 000 mots. Donc j'ai fait mon petit calcul et normalement, j'étais censée arriver sur un roman de 190 000 mots, ce qui est déjà un bon roman. Ouais. Bon, là, il n'est pas encore terminé. Il me reste 4 ou 5 chapitres et je suis à 283 000 mots. Donc autant vous dire que l'estimation, c'est pas mon truc. Voilà.
Je me reconnais énormément dans ce que tu dis parce que du coup, depuis que j'ai essayé de travailler un peu ce nombre de mots pour mon contemporain que je vais publier en auto-édition, je m'étais dit, cette fois, je vais réussir à faire un truc de 50 000 mots tranquille, je vais l'écrire en 3 semaines. Voilà, sachant que j'avais jamais écrit de one-shot et que c'était toujours des sagas. Et résultat, ben, j'ai quand même mis 3 mois à l'écrire et il fait 150 000 mots. Donc voilà.
Ouais, ça fait beaucoup de mots par mois au final.
Oui, après, quand
Tu
je suis
fais
en
des
premier
nanos
jet.
à toi toute seule.
Ouais. Quand je suis en premier jet, je fonce en général 3, 4 mois maximum. J'arrive à 150 180 000 mots, oui.
Wow.
Et Liana, je me demandais finalement, est-ce que tu avais décidé de couper en deux ton roman?
Alors oui, maintenant j'ai décidé de le couper en deux, un peu par la force des choses, parce que bah, c'est clairement trop long. Là en l'état, c'est difficilement publiable, surtout que il va falloir que je rajoute des choses en fait. Là pour l'instant, j'ai un peu laissé de côté tout ce qui est description de lieux, même la description des personnages, c'est quand même assez succinct. Donc l'étape de réécriture, il va falloir que je rajoute. Rajouter, 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 ça va faire quelque chose d'assez gros. Et clairement, se présenter à une maison d'édition en leur disant, voilà, j'ai un petit pavé de 300 000 mots, publiez-moi, j'ai rien de sorti, rien de connu. Je pense que c'est mort. Donc oui, il va falloir le couper en deux. Bon, normalement, ça devrait bien se passer parce que j'ai quand même pas mal de choses qui se passent. J'ai refait un petit tour sur mon plan de chapitre justement pour vérifier si en coupant un endroit en particulier j'aurais bien mes bascules narratives, si le rythme pourrait tenir, et normalement c'est bon, mais c'était pas prévu comme ça, donc ça m'enquiquine un petit peu quand même.
D'un autre côté, je trouve que c'est intéressant, j'en ai parlé avec des amis auto-édités récemment, quand on coupe les tomes en deux, ça peut être stratégique aussi, parce que ça peut être plus rentable en fait. Voilà, tu dois penser à la même chose, Paul, mais rien que le fait de la correction, parce que le nombre de mots en correction ça augmente vite, tout ce qu'il y a autour, ça peut être intéressant de couper les tomes. Mais du coup, j'en parlais avec une amie qui fait ça, sauf que après ça dépend, parce que moi qui ai une très longue saga, si je coupe les tomes parce que en avoir 6 au lieu de 3 par exemple, fidéliser le lectorat sur 6 tomes, c'est beaucoup plus dur que sur 3. Donc même si ce serait plus rentable peut-être financièrement de le faire produire, de le faire vendre derrière et de les vendre tous, ça reste plus compliqué. Donc je pense que c'est un espèce de dosage à avoir.
Ouais, et puis pour revenir sur le fait de les couper en deux, des fois il y a un endroit où en tout cas ça marche particulièrement bien dans les structures narratives, c'est le pivot central, donc voilà, c'est le climax médian dans une histoire, et souvent là c'est un point de tension où voilà, des fois quand on coupe ici, c'est juste horrible quoi, on peut réussir à créer un cliffhanger et une sensation de suspense qui est vraiment très forte. Donc des fois ça peut marcher quand on a un manuscrit trop long, on cherche son climax médian, on se dit là ça peut le faire ici, là c'est un point clé de l'histoire, elle est pas du tout finie. On en a dit suffisamment pour que le lecteur soit dedans, mais pas assez pour qu'il se dise « Ah non, il faut que je continue, il faut que je lise la suite ». Donc voilà, ça peut marcher des fois, ce point de bascule un peu central de l'histoire, souvent qui arrive à peu près au milieu. Quand on coupe là, des fois, on peut réussir à s'en sortir, mais bon, après, c'est pas toujours possible, mais des fois, ça peut être le truc quand on a un manuscrit beaucoup trop long.
Ouais, moi j'y ai pensé, on m'a souvent proposé aussi, mais ça aurait pas fonctionné avec le roman que j'ai écrit et mes bêtas étaient d'accord. Il n'y a pas d'endroit où couper serait pertinent et ça serait intéressant. Et le gros cliffhanger est vraiment presque à la fin, donc je sentais que c'était pas pertinent pour mon roman.
Et alors moi pour le coup, j'ai pas décidé de couper sur comme tu dis, le climax en plein milieu du roman. Alors, je coupe bien sur une révélation qui va donner envie au lecteur d'aller voir la suite, effectivement, mais par contre, pas sur un truc trop horrible, j'ai envie de dire, parce que, en tant que lectrice, moi, je déteste ça. Surtout si on est obligé d'attendre, en fait, entre la sortie des tomes. Je sais que si un livre se termine sur quelque chose où vraiment il me faut la suite tout de suite et que le livre n'est pas disponible, déjà ça me frustre sur le coup. Et en général, quand le livre sort enfin, j'ai énormément de mal à me remettre dedans. Parce que je sais qu'on est sur une scène, enfin sur un endroit où il y a plein de tensions, et au final j'ai pas envie de me remettre dedans. Alors que si ça avait enchaîné, j'aurais continué. Donc du coup, moi, j'ai pas fait le choix de couper sur un truc vraiment très très haut en tension. Il y a un peu de tension pour donner envie d'aller voir la suite, pardon. Mais c'est pas le gros pic de tension.
T'es pas une autrice trop sadique envers les lecteurs.
Si. Si, mais pas sur la fin d'un tome, on va dire ça comme ça. Sinon, okay. Si je pense qu'on peut me ranger dans la catégorie autrice sadique, mon alpha lectrice vous le confirmerait.
D'accord.
Ouais, je suis d'accord avec ça, et notamment sur, du coup, toujours Passeur de rêve, parce que c'est vraiment ma préoccupation première, ces énormes tomes que j'ai fait, où vraiment le dernier tome, il fait 300 000 mots, donc on est dans un excès total. En fait, je me suis rendu compte que le premier tome, donc j'avais coupé en deux le premier tome, et en fait, ça n'avait plus de sens du tout parce que je l'avais pensé en un seul et pas en deux. Et en fait, du coup, ce qui était devenu le tome 1, qui en fait était la première partie du coup du tome 1 initial, c'était très très introducteur, Bon, je m'étais un peu étalée, donc il y avait des trucs à supprimer et des trucs un peu inutiles, mais c'était trop introducteur et c'était un peu frustrant. En dehors du cliffhanger de la fin, voilà, dont tu parlais, Liana, ça n'avait plus de sens. Donc en fait, je les ai rassemblés. Bah, là, j'ai fini il n'y a pas très longtemps. J'ai rassemblé à nouveau les tomes 1 et 2. Et certes, ça fait un énorme pavé à nouveau. Il fait 183 000 mots. Mais ça a tellement plus de sens et c'est tellement plus fluide à lire que finalement, je me dis, bon, j'ai donné mon max pour éradiquer le nombre de mots. J'ai fait ce que je pouvais pour vraiment enlever tout le superflu. Et tant pis, tant pis. Je sais que ça n'a plus de sens en fait d'enlever des trucs dedans ou de le recouper. Donc finalement, voilà, j'ai trouvé mon propre équilibre. On va voir si ça passe un jour, mais.
Non, c'est vrai que c'est pas évident, mais oui, c'est vrai que des fois, il y a y a des structures narratives, l'histoire est pensée d'une telle manière que, bah, comme vous disiez Liana et Mali, bah, on voit pas d'endroit où on peut couper, quoi. Et puis bah, c'est ok, quoi. Mais après, c'est vrai que du coup, oui, je comprends que quand on voit la taille de son truc, on se dise waouh, c'est donc on cherche des endroits où couper. Mais ouais, pour revenir à ce que disait Liana, mais moi j'adore les fins comme ça, les trucs. C'est juste, moi je prends un malin plaisir à faire des fins comme ça en tant qu'auteur. Un truc comme ça, tu t'arrêtes au milieu d'un truc hyper tendu et tout, et tu dis bon, allez, à l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a des gens qui détestent du coup, mais moi je trouve c'est du génie. J'adore faire ça et j'adore, et même en tant que spectateur, j'adore me faire piéger par ça. Quand je regarde un truc ou quand je lis un truc et que j'arrive au truc, je me dis oh punaise, il a arrêté là ou elle a arrêté là, ça craint, ça se fait pas. Et moi je trouve c'est génie, c'est du génie comme ce que ça génère comme émotion et tout. C'est quelque chose que j'aime bien.
Moi, je suis entre vous deux, entre toi, Liana, et toi, Paul. J'aime les fins ouvertes, mais quand c'est trop cliffhanger, c'est vrai qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et si le tome n'est pas sorti. Après, j'ai peur que comme tu as eu tellement d'attentes que finalement, tu recommences et puis finalement, tu as cette révélation au début, peut-être qui va te happer et puis tu redescends sur quelque chose de tranquille et puis après, qui va faire ça en disant « Ah, bah, en fait, finalement... Bah, maintenant que j'ai eu mon cliffhanger, maintenant que j'ai eu ma réponse, c'est moins intéressant à la suite. Peut-être qu'on peut perdre le lecteur. Mais moi, j'avais une autre question pour Liana et Mali. Comment ça se fait que ça soit aussi gros? Parce que 300 000 mots, quand même, c'est vraiment genre énorme. Est-ce que c'est parce que tu as une quête, enfin, vous avez une quête et que, du coup, vous passez par différents points? Est-ce que c'est les relations entre les personnages, que vous faites beaucoup de scènes par rapport à ça, etc.? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, celui de 300 000 mots, c'est vraiment un cas exceptionnel. En fait, c'est le dernier tome de toute la saga. Donc, déjà, j'ai dû fermer toutes les portes que j'ai ouvertes. Du coup, c'est une saga de 2 saisons. Donc, il y a la saison 1, une trilogie. La saison 2, il y a 4 tomes, je ne sais pas comment on dit. Donc, en fait, j'ai dû fermer les portes pour tous les tomes précédents, déjà. Et il y a aussi, parce que, en fait, je ne l'ai pas encore vraiment retravaillé, corrigé, je n'ai pas trop enlevé le superflu. Franchement, il y a des parties où je pourrais enlever beaucoup de trucs, je pense, où je me suis étalée parce que mon héroïne, elle est au bout de sa life. Et je le dis pendant des pages et des pages en mode elle est trop au bout de sa life. Donc, il y a des moments où vraiment c'est juste lourd en fait. Mais mon premier jet, c'est souvent ça en fait. Souvent, je m'étale parce que je suis pas sûre qu'on ait compris. Et ensuite, à la réécriture, je prends moins le lecteur pour un con. Et je me dis, bon, allez, une phrase, c'est bon, il a compris. Ou alors des petites répétitions par-ci par-là, mais ça va. Donc, c'est des trucs que je travaille après à la réécriture, mais que j'ai appris aussi récemment. Et ce tome-là de 300 000 mots, je l'ai écrit en 2021, je crois, janvier 2021, je l'ai terminé. Donc, entre-temps, j'ai quand même beaucoup progressé et un peu appris de mes erreurs, on va dire, parce que c'était vraiment ce que relevaient les éditeurs, c'était le manque de rythme dans mes romans. Et c'était notamment par le fait que je m'étalais beaucoup et que je prenais un peu le lecteur pour un imbécile en mode il n'a pas compris avec une phrase. Donc voilà. Donc on en reparlera quand j'aurai bien ratissé ce tome. Je pense que je vais facilement enlever 100 000 mots en vrai. Hein, donc.
Ah, c'est drôle parce que moi, c'est vraiment l'inverse. Mon premier jet va être hyper succinct. Je vais mettre une phrase et après, en réécriture, je me dis là que j'ai ma phrase et là, je vais faire en sorte de l'expliquer, d'expliquer les sentiments, expliquer les lieux, la description, etc. Mais mon premier jet, je déteste tellement faire ça que là, j'en suis en train d'en écrire un. C'est dialogue, dialogue, une phrase de description, dialogue, dialogue. Et après, je me dis que je me poserai en réécriture et petit à petit, après, je vais prendre mon temps, je vais écrire, je vais décrire. Mais ouais, non, moi, c'est l'inverse de toi.
Après, moi, je mets beaucoup d'émotions dans le premier jet, en fait. Et l'émotion, je pense, c'est ce que je mets le plus dans mes romans. Et du coup, c'est ce que je développe le plus. Et j'arrive moins à le faire à la réécriture. Donc c'est pour ça que j'éradique après, en fait. C'est sur le premier G, sur le moment, je suis dans l'histoire, donc je vis l'émotion, donc je la transmets. Je pense que c'est aussi ça.
Ah ouais, c'est fou, moi c'est totalement l'inverse. Je vis mon histoire une fois qu'elle est écrite, je plonge complètement dedans et je la revis en la lisant et en la décrivant.
Ah ouais.
Mais vraiment, le premier G, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, finalement, c'est hyper superflu. C'est comme une sorte de grosse... c'était une grosse architecture que je faisais. Je fais toute la structure et puis après, en réécriture, je plonge dedans.
Ben, moi aussi, je suis comme Nel, mais ce que je trouve drôle, c'est que de ce qui est décrit avec les gros livres, c'est qu'on prend un peu les lecteurs comme des cons, je pense que c'est ça que tu as dit. Mais moi, j'ai l'impression que mon problème, c'est que en écrivant des livres qui sont trop petits, c'est comme si je prenais mes lecteurs pour des génies qui devinent c'est quoi qu'il y a dans ma tête. Mais ils ne savent pas, il faut que j'écrive. Mais j'ai l'impression que c'est totalement le contraire qu'on est en train de faire.
Ok, je comprends. Mais moi, je suis plus du côté de Mali aussi. Et je m'en suis rendu compte à ma réécriture et avec mes commentaires de bêta-lectrice parce que il y en a une en particulier qui notait chacune de mes phrases superflues à un moment. Là, après, elle a arrêté parce que, tu sais, quand tu commences à voir ce genre de commentaires-là sur ton manuscrit, après quelques temps, tu vois toi-même qu'est-ce qui est à enlever. Et justement, aujourd'hui, je réécrivais mon chapitre 7 et j'ai enlevé énormément de mots et même en rajoutant une scène, j'ai eu le même nombre de mots dans le chapitre à la fin. Donc, il y avait tellement de trucs superflus et c'est exactement comme Mali disait, on dirait que je fais pas confiance au lecteur pour comprendre une information. Donc, j'y vais pour la dire trois fois d'une manière différente, dans trois phrases différentes. C'est ça. Donc, je m'étale trop et souvent aussi, j'utilise des mots qui sont inutiles, du genre, je mets trop de lorsque, ce genre de choses-là. Et ça peut vraiment permettre de réduire le nombre de mots. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne à la deuxième réécriture. Même si pour la première, il a fallu que j'en rajoute 20 000, là, ça commence à aller mieux.
Je réponds juste vite fait. Comme tu dis, moi aussi, j'ai besoin d'énormément de recul, j'ai l'impression, pour voir ce qui est superflu finalement. Et là, notamment sur ma saga Passeur de rêve, j'y arrive parce que j'écris tous les tomes. Donc en fait, dans ce que j'ai déjà écrit, je sais ce qui est utile pour la suite ou non. En dehors des passages où je me répète trop, il y a peut-être des infos que j'ai mises au début en pensant qu'elles me serviraient plus tard, que je les connecterais plus tard, et en fait, finalement, non. Donc finalement, avec le recul, soit les tomes écrits derrière, soit juste l'objectivité, entre guillemets, du fait que le temps a passé et que je suis passée à autre chose et que le texte n'est plus autant imprégné des émotions que j'ai dans le premier jet. En fait, ça m'aide beaucoup, le recul, tout simplement.
Et du coup, alors moi, pour répondre à la question pourquoi je fais des trucs énormes, je pense aussi que c'est parce que j'écris, donc, comme je disais, de la romantaisie. Donc j'ai une intrigue centrale qui est la romance, et j'écris un slow burn, donc forcément, je prends mon temps. Hein. Surtout que je pars sur un enemies to lovers, donc voilà, hein, entre le début et la fin, il faut bien, bien, bien les faire évoluer, les personnages. Et ça prend du temps, surtout que il faut vraiment rentrer dans leurs émotions, je trouve pas le mot, bon, c'est pas grave. À côté de ça, j'ai aussi une intrigue plus centrée vraiment sur le monde tel que je l'ai créé. Qui sert la romance, hein, cette deuxième intrigue, elle sert la romance, mais du coup j'ai vraiment deux choses à gérer en parallèle et ça fait beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de chapitres à traiter. Il y a des scènes qui servent plus l'un ou plus l'autre et du coup ça monte très très vite. Mais je pense aussi qu'il y a des choses que je pourrais supprimer à la réécriture parce que peut-être que je me répète soit dans le même chapitre à dire plusieurs fois la même chose et donc comme disait Mali, apprendre le lecteur pour un coup, ou alors même des fois des choses que j'ai placées dans un chapitre parce que à ce moment-là j'y ai pensé, et puis que j'ai remis 5 chapitres plus tard et ça ne sert donc à rien. Donc je pense qu'il y a aussi des choses que je vais pouvoir éliminer comme ça, mais au final pas tant que ça, avec mes deux grosses intrigues, voilà.
Ouais, mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important aussi, c'est qu'il y a des romans qui ont besoin d'être longs. C'est mon cas aussi, ayant un Enemies to Lovers aussi. Et En fait, il y a un de mes personnages qui a besoin de faire une immense évolution, donc ça peut pas être juste dans un petit roman, ce serait irréaliste. Et en ce moment, justement, je lis un Enemies to Lovers qui ressemble beaucoup à mon roman dans certains aspects, et je trouve que ça va trop vite, et moi, ça me déstabilise. Donc, je pense que parfois, on est mieux de, même si on a peur du nombre de mots, de dire tout ce qu'on a à dire et de faire en sorte que l'histoire fasse le plus de sens possible.
Mais ouais, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec toi, Camilla, sur le truc, c'est que, en fait, le nombre de mots, il est déterminé par ce qu'on raconte. Il y a des quêtes qui sont clairement longues, quoi. Je sais pas, par exemple, si on raconte une histoire où c'est juste une année scolaire, bah, ça sera forcément plus court que si on raconte une histoire qui englobe tout le passage du lycée. Voilà, suivant ce qu'on décide de raconter, bah, des fois, on a besoin d'avoir quelque chose de gigantesque, ne serait-ce que pour la crédibilité de l'histoire, et pas avoir quelque chose qui soit beaucoup trop ellipsé, ou voilà, où on change tout le temps de temporalité, et les gens se disent « Oula, on en était là, après on en était là ». Des fois, ça peut être ça aussi, quand on a des histoires un peu grandes à raconter. Le piège, ça peut être justement de tomber dans ce truc où on est constamment dans l'ellipse, on n'a pas le temps de rester avec les personnages et du coup, de développer un petit peu les choses.
Ouais, et alors moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, Camilla, c'est vrai que dans une romance, donc ce que j'écris en ce moment, j'ai beaucoup de mal quand les personnages évoluent trop vite. C'est-à-dire que si au début, ils peuvent pas se voir, ils sont aux antipodes l'un de l'autre, ben, trois chapitres plus tard, ils peuvent pas être « ça y est, on est copains et puis on se rapproche et ça y est ». Non, c'est pas possible. Et moi, j'ai vraiment, vraiment besoin de prendre mon temps. Et donc, d'écrire beaucoup de mots.
Je comprends.
Et par rapport à ces sous-intrigues, moi, perso, c'est vraiment ce que j'aime lire aussi. C'est des sagas sur plusieurs tomes et des personnages complexes avec plein de sous-intrigues qui nourrissent l'intrigue principale. C'est pas des trucs inutiles. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans Passeurs de rêves. Et c'est pour ça qu'il y a autant de tomes et que, du coup, ils sont gros. C'est que j'ai beaucoup de personnages que j'ai énormément travaillé. J'ai envie de faire des intrigues secondaires, elles se mêlent à la première mais on comprend pas tout de suite pourquoi, et du coup en fait ça prend une ampleur et ça me permet de développer énormément tous les personnages, donc comme il y en a beaucoup, bah, c'est, voilà, je peux pas faire 2-3 lignes comme ça sur chacun, on découvre une couche sur un personnage dans le tome 1 puis une deuxième dans le tome 2, voilà. Et en fait quand j'ai voulu écrire ma romance contemporaine, enfin mon feel good contemporain sur un tome, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps parce que j'ai reçu les premières corrections édito. Et il y a une remarque, qui m'a vraiment perturbée. Elle m'a dit « Tes personnages secondaires sont non consistants. » Et je me suis dit « Mais what ? Moi, j'ai fait des personnages non consistants ?» Et en fait, elle a totalement raison. Ça m'était jamais arrivé parce que dans les sagas, justement, je peux développer. Et en fait, je crois que là, j'ai eu un gros flip de « C'est un tome unique, je n'ai pas le temps de m'étendre. » Il y a mon héroïne qui a son intrigue principale, son fil rouge. Et en fait, je peux pas vraiment entremêler trop de sous-intrigues. Donc, bah, les autres personnages, bah, ils sont là, ils servent son intrigue, mais en gros, ils ont pas trop leur propre personnalité et tout. Et je pense que j'en étais pas rendu compte. Et ça m'a fascinée de me dire, je suis capable de faire des personnages fades. C'est triste. Du coup, je vais devoir retravailler ça. Mais vraiment, je pense que c'est ça l'explication. C'est que j'ai paniqué, en fait, en me disant, j'ai pas le temps.
Ouais, je comprends. c'est sûr que une saga, c'est pas pareil. Et je pense aussi que quand on est un lecteur qui aime lire des sagas, ça va se voir dans ce qu'on écrit. Mais je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez cette peur, soit d'avoir trop de mots, soit d'en avoir pas assez? Est-ce que c'est en lien avec la publication, en lien avec des choses qu'on vous a dites? Moi, je me doute un peu des réponses qu'on pourrait entendre, mais allez-y.
Moi, je trouve, en fait, ça rejoint les réseaux sociaux, ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Il y a vraiment cette pression du nombre de mots sur les réseaux sociaux que moi, je n'avais pas avant de venir ici. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, vraiment en 2014, je faisais absolument pas attention du tout au nombre de mots que je faisais. C'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai pensé à l'édition, que j'ai regardé combien fallait de mots pour pouvoir être édité. À l'époque, je me souviens, j'avais écrit, donc c'était La Part de l'éclair, et c'était, je pense qu'il faisait quelque chose comme peut-être 55 000 mots, c'était quand même une grosse fantaisie de base, mais 55 000 mots pour une fantaisie, ce n'est vraiment pas beaucoup, et dans ma tête, j'avais vraiment eu l'impression d'avoir écrit tout ce qu'il fallait, et c'est petit à petit, en faisant attention au nombre de mots que prenaient les éditeurs, et là, récemment, en arrivant sur... Donc là, ça fait Instagram, ça fait un an que j'y suis. Et en fait, à peine je suis arrivée sur Instagram que les gens donc, disaient en story, « Bon, bah, aujourd'hui, j'écris tant de mots. Mon manuscrit fait tant de mots. C'est passé, c'est trop, nanana. » Et puis là, du coup, on commence à se comparer, etc. Et ouais, c'est vrai que je dirais que c'est vraiment cette peur aussi de « Ah, bah, je fais pas beaucoup de mots. » Alors que, vu que j'écris de la fantasy, il faut qu'il y ait beaucoup de mots pour que le world building, on l'ait bien expliqué, etc. Et en fait, je trouve que ça dépend tellement de l'histoire. Pour donner un indicatif, moi, le roman qui va sortir là en septembre, il fait 75 000 mots, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et quand j'avais terminé le premier jet à l'époque, il faisait 56. Et en fait, déjà, la peur que j'avais, c'était qu'il soit juste tout petit. Je voulais pas que mon roman, ça soit une galette. Donc c'était plus sur le rendu final de base que j'avais peur, plus qu'autre chose. Et c'est vrai que sur les réseaux, récemment je l'ai vu sur TikTok, il y a une personne qui me disait « Ah, le roman il fait 350 pages, c'était sûr qu'il n'allait pas du tout être poussé niveau world building ». Et j'écoutais cette vidéo, je me disais « Mais en fait, non, pas forcément, ça dépend tellement de l'histoire qui est racontée que oui, c'est sûr que si tu as une quête, forcément tu vas faire plus de mots que si tu restes sur un huis clos. Par exemple, L'Engrange-temps qui va sortir, on est plus sur un huis clos en tant que tel parce qu'on va être sur une même ville, les mêmes personnages, etc. Alors que par exemple, La part de l'éclair qui fait 120 000 mots maintenant, c'est bon, il a gagné 50 000 mots. Là, on est sur une quête où on va sur plusieurs villes, etc. Donc c'est sûr que je fais plus de mots, mais c'est vrai que j'aime pas ce truc de dire « Ah bah forcément, c'est une fantasy. » Ah, il est tout petit, donc l'auteur il va passer en superflu sur l'histoire. Donc, c'est ça.
Je trouve ça vraiment intéressant parce que, moi aussi, c'est des petits manuscrits, mais j'ai jamais ressenti cette même peur parce que je pense que j'ai jamais écrit de fantasy. Donc là, je suis en train de réaliser qu'il y a vraiment quelque chose qui est propre à ce genre-là par rapport au nombre de mots. Moi, dans mon cas, je pense que ma peur du nombre de mots, elle se rapporte vraiment juste à mon texte et non à la publication, parce que je pense que dans le genre de contemporain étrange que j'écris, il y a vraiment une grande place dans la francophonie pour des petits livres de 150 pages à 250 pages. Le mien, à mon avis, il fera un peu plus que ça, mais c'est pas une inquiétude par rapport à la publication. Mais
surtout au Québec en plus.
Oui, oui, au Québec, quand tu vas dans les librairies, là, les tables, c'est vraiment des petits livres, vraiment, vraiment. Mais donc, moi, ma peur, c'est que parce que mon livre est petit, ça signifie que les événements déboulent trop vite, que les personnages sont pas assez approfondis. Et le problème, c'est que après ça, de l'autre côté de cette peur, dès que je me mets à ajouter du contenu, pour approfondir ou quoi que ce soit, ben, je me dis, mais est-ce que ce que je rajoute, ça améliore réellement? Parce que je suis en train, par exemple, de comparer un livre qui allait très vite parce qu'il était très court face à un livre qui va maintenant un peu moins vite parce que j'ai ajouté des choses. Mais c'est tellement difficile de déterminer est-ce que là je suis en train de ralentir le rythme ou l'améliorer? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais lu le premier jet petit, il va trouver ça lent ou j'ajoute effectivement des longueurs? Donc moi, c'est ça ma peur du nombre de mots, c'est vraiment strictement, ça se rapporte juste au texte lui-même. Je ne sais pas comment le traiter, comment voir si ce que je fais c'est trop rapide ou pas.
Pour ma part, comme je disais au début, je me suis jamais posé la question jusqu'à assez récemment par rapport au nombre d'années depuis lesquelles j'écris. C'est vraiment, je crois, que la première fois que ça m'a perturbée, c'était pendant la formation LICAR. Même si ils donnent un peu un ordre d'idée, ils ne nous ordonnent pas quoi que ce soit, ils ne nous disent pas c'est une calamité si le livre fait 180 000 mots. Mais quand ils ont parlé du coup des standards un petit peu, qu'ils ont dit que voilà, pour un primo-auteur, valait mieux écrire par exemple un one shot ou à la limite une dilogie et approximativement 50 à 100 000 mots. Moi j'étais là avec mes 10 tomes et mes 300 000 mots et je me suis sentie super mal. C'est vraiment le moment où je me suis dit bah ok, j'ai aucune chance d'être publiée, enfin vraiment c'est ruiner mes chances, comment je vais faire et tout. Et après c'est venu un petit peu par les réseaux et un peu ben, quand je vois un peu les stats des autres auteurs, parce que avant les réseaux, finalement, j'étais un peu seule, enfin, ou alors si j'ai 2-3 amis auteurs, on regardait pas vraiment ça, on s'en foutait un peu. Donc ça c'était plus récent, mais vraiment c'était le moment où en fait je me suis confrontée au monde de l'édition et aux représentants de l'édition. Là j'ai paniqué quoi, j'étais vraiment à l'opposé de ce qu'ils conseillaient quoi.
Moi aussi c'est vraiment le fait de vouloir faire publier le livre qui m'inquiète, parce que voilà, moi aussi je pense que pour un primo-auteur, comme tu dis, débarquer avec un truc de 300 000 mots, c'est plus compliqué que quand on arrive avec quelque chose de plus court. Les éditeurs ont quand même un peu plus de mal à se lancer sur quelque chose d'aussi gros avec quelqu'un d'inconnu. Donc effectivement, ouais, c'est depuis que j'ai pris la décision d'essayer de faire publier ce roman que le nombre de mots m'inquiète. Avant, c'est pareil, ça ne m'inquiétait pas plus que ça, parce que j'écrivais pour moi, ou alors pour mettre sur les sites internet, et au final, les lecteurs, ils s'adaptaient à ce que je leur donnais. Et alors, par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit pour Lika, moi, justement, j'ai eu un commentaire quand j'ai rempli mon dossier de soumission pour le faire, entre guillemets, valider, donc par l'éditeur qui travaille pour Lika, et que j'ai donné mon nombre de mots approximatif qui, au final, était encore loin du compte, puisque j'ai rempli ça il y a quelques mois. J'avais pas du tout fini le premier jet, hein, j'en étais encore très loin. J'avais déjà repoussé un petit peu mon évaluation du nombre de mots, et j'ai marqué donc que j'estimais à peu près à 200 000 mots. Et le commentaire, ça a été... 200 000 mots ou 200 000 signes ? Parce que 200 000 mots, bah, ça va être compliqué à publier. Et donc là, maintenant que j'approche les 300 000 mots, je me dis, c'est encore pire. Donc voilà, c'est autant des commentaires, c'est un peu aussi ce qu'on voit en discutant avec les autres auteurs. J'ai aussi un peu commencé à regarder les livres que je lis, à estimer le nombre de mots ou à trouver sur Internet combien ils font pour avoir un rapport entre le nombre de mots et le nombre de pages. Et effectivement, les gros pavés, ça fait peur au final.
Mais tu peux comparer par exemple avec la passeuse de mots. Je sais que eux, quand ils ont envoyé à Hachette, le 1 et le 2, en fait, c'était un seul tome. Et du coup, je pense que déjà, la passeuse de mots, ça fait 800 pages. Je pense que même à ça, je pense qu'ils sont à 1 million de signes par livre. Et du coup, c'est ça. C'est qu'avec Hachette, ils ont regardé comment bien couper le tome, etc. Parce que ouais, je pense que ça devait être quelque chose comme ça. Il y a peut-être 250 000 mots à l'époque quand ils l'ont soumis. Rien n'est perdu. Au pire, il y a des gens qui peuvent t'aider à couper dedans.
Mais justement, c'est ce que je disais à Camilla quand t'as fait ton épisode de podcast à ce sujet. Je t'avais dit, mais regarde, il y a la passeuse de mots, il y a la passe miroir, c'est pas mort non plus. On a une petite lueur d'espoir.
Ouais, puis pour revenir sur Licor, moi j'avais estimé à 160 000 et j'avais raison, j'avais 160 000 au final. Et il m'avait dit, c'est pas non plus foufou. Tu sais, c'est comme, oui, c'est beaucoup, mais il m'avait dit, c'est de l'imaginaire. Donc ça va, c'est pas non plus comme beaucoup trop, puis là t'as aucune chance. Il m'avait pas non plus barré comme ça, mais c'est sûr qu'il m'avait dit que c'est un peu plus compliqué.
Alors moi, pour le coup, du coup, pour revenir sur la pression liée au fait que ce soit trop long, trop court, moi au début j'étais en dehors de ces questions, dans le sens où moi au début j'avais choisi une petite taille pour par plaisir personnel, en fait. C'est à dire que moi, quand je lis un livre, en fait, je lis jamais très longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, je prends pas un livre et je lis pas pendant 5 heures de suite. C'est impossible, je peux pas faire ça. Souvent, quand je prends un livre, je lis une demi-heure, une heure. Et du coup, en fait, j'ai voulu écrire des histoires que je pourrais terminer sur ce laps de temps-là, en fait. Parce que je trouve que quand on lit pas longtemps, souvent, on n'avance pas beaucoup, on n'avance pas très vite dans les livres. Là, en ce moment, je suis en train de lire la saga Les 100. C'est super long parce que je lis pas assez à chaque fois, à chaque session. Et du coup, le fait d'avoir une histoire courte, c'est-à-dire que même quand on lit pas beaucoup, on a la satisfaction d'arriver au bout d'une histoire. Et du coup, moi, c'est avec ce plaisir-là, cette envie-là, en fait, que j'ai commencé à faire des trucs de petite taille. Mais du coup, là, c'est vrai que quand j'entends parler Mamaki, moi, c'est un peu. Du coup, c'est vrai que c'est un peu pareil aussi. On se dit des fois, voilà, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que les gens, ils vont avoir le temps de rentrer dans le personnage, de rentrer dans les événements? Et si on rajoute des choses, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est cohérent? Et donc là, voilà, je reste sur un format roman court. Là, par exemple, donc le 1, je disais, le tome 1 fait 25 000 mots. Et c'est vrai que j'ai dû rajouter des choses parce que voilà, les personnages, ils n'étaient pas assez approfondis, ils étaient un petit peu plats, on n'arrivait pas à les sentir que c'était déjà fini. Et là, du coup, par exemple, le tome 2, déjà, il fait 50 000 mots, donc il s'approche 45 000 mots à peu près. Donc là, on prend déjà une plus grosse part parce qu'il y a un besoin quand même d'approfondir certaines choses, des fois, suivant les histoires, qui se fait plus fort, voilà, le besoin d'approfondissement est plus fort. Mais ouais, du coup, dans un premier temps, c'est vrai que j'étais en dehors de ces questions-là et j'ai pris en compte mon plaisir personnel. Voilà, je me suis dit, bah, j'aime lire ça, du coup, je vais écrire quelque chose que j'aime lire. Mais après, c'est vrai que ouais, quand on rentre un petit peu dans les chaînes éditoriales ou sur les réseaux, on se dit, voilà, on se pose des questions un peu plus, on se torture un peu plus, on se dit, est-ce que c'est pas trop petit, finalement? Est-ce que j'aurais pas intérêt à rajouter des trucs?
Et comme quoi, c'est vachement lié à ce qu'on aime lire personnellement et c'est très différent. Oui, en fait, c'est vachement lié à ce qu'on aime lire parce que moi, par exemple, j'adore les grosses sagas, genre j'adore Harry Potter, j'ai adoré lire plusieurs tomes à la suite, retrouver les personnages et je peux lire pendant 3 heures sans m'arrêter, sans problème. Et du coup, ben, j'écris des trucs qui correspondent à ça, alors que pour moi, des livres plus courts sont un peu moins fun. Même quand j'étais petite, je choisissais les livres en librairie par rapport à leur taille, je prenais que des pavés, quoi. Donc, comme quoi, ça a tout conditionné.
Ben, je pense que voilà, ce que je disais, on va dire à peu près la même chose. Et ça se trouve, c'est ça, il faudrait savoir faire un petit peu le tour pour Nel, enfin pour les 3 autres du coup. Et moi, c'est comme toi en fait, j'aime lire des gros livres, j'aime les séries qui sont longues, j'aime pouvoir m'installer et passer des heures et des heures à lire et pouvoir garder le livre sur plusieurs jours. Et comme toi, quand j'étais petite, ben, justement, les trucs très courts. Bah, ça me captivait pas en fait. Et c'est quand j'ai commencé à mieux lire et à vraiment pouvoir enchaîner des gros livres que j'ai trouvé le plaisir de la lecture. Et je pense que c'est aussi pour ça que maintenant j'écris des gros livres. Mais du coup, les autres, ça donne quoi? Vous êtes des petits lecteurs, petits écrivains ou bien alors c'est pas pareil?
Mais je pense qu'on tient quelque chose, hein, parce que moi, je suis comme Paul, dans le sens où j'aime avoir l'impression que ça va vite. Enfin, pas vite dans les actions, mais j'aime avoir l'impression que j'avance dans mon histoire. Et c'est vrai que quand un roman prend trop de temps à s'installer, ça m'énerve. Alors, j'adore les belles descriptions, j'adore quand on rentre dans le world building, etc. Mais c'est vrai que j'aime avoir la satisfaction qu'il se passe des trucs. Ça m'énerve quand on fait une exposition de 200 pages, je dois avouer. Même si, voilà, je vais adorer l'univers, c'est vrai que je vais vouloir rentrer dans l'action. Je donne un exemple tout con. Il y a quelques mois, je disais la série Shade of Magic et Vi Ishwab, elle a cette capacité à faire des longues expositions d'univers. Elle est très forte sur ça. Elle écrit super bien. Les personnages sont incroyables. Mais avant qu'on rentre dans l'histoire, il faut qu'on lise 200 pages. Et moi, je m'ennuie. Je m'ennuie pas sur le Vi Ishwab, mais généralement, c'est vrai que j'ai vraiment pas l'impression d'avancer. Et en fait, j'ai tellement cette passion de l'aventure que j'ai envie de rentrer dans l'action. Et je pense que c'est ça. En fait, je suis dans la même idée de j'ai envie d'entrer dans l'action. Et en fait, c'est la même chose quand je lis et quand j'écris. Donc ouais, je pense que vraiment qu'on tient quelque chose par rapport à ça. On écrit vraiment ce qu'on aime lire, quoi.
Nel, je trouve ça incroyable que tu mentionnes Shades of Magic comme exemple. Parce que moi, je pense que j'ai pas mentionné, j'ai une chaîne BookTube. Critiquer des livres, c'est mon activité principale dans la vie, à côté de l'écriture. Et chaque fois que j'ai présenté Shades of Magic, j'ai toujours dit, ah, oh, c'était un très bon livre, mais les 200 premières pages servaient absolument à rien. C'est toujours comme ça que je le présente. Parce que...
Oui, c'est vrai.
mais je pense vraiment qu'on a mis le doigt sur quelque chose parce que. C'est ça, j'écris des petits livres et si on regarde M'appelle à lire qui est organisé en ordre d'ancienneté du moment où je les ai ajoutés à ma pile, ben tous les livres qui traînent depuis des années, ce sont des pavés, ce sont tous des pavés. Moi, les pavés, je les évite. C'est pas parce que j'aime pas l'expérience de les lire, mais c'est parce que souvent je suis comme, il y avait du très bon là-dedans, mais c'était pas nécessaire de le faire aussi long. Fait que j'aime pas cette sorte de dilemme de voir qu'un livre a vraiment des aspects incroyables, mais que je sais que t'aurais pu le faire plus court, mon ami, je sais. Donc, c'est ça, je pense qu'on a vraiment mis le doigt dessus.
Ah, c'est vraiment ça.
Ouais, ben, de mon côté, j'aime beaucoup quand ça prend quand même un peu de temps, quand on a du world building, de l'exposition, mais pas 200 pages. T'sais, pour moi, il y a une limite aussi. Là, j'ai deux livres, en fait, je lis 5 livres en ce moment, et il y en a deux dedans que j'ai un peu abandonné parce que c'était trop long. Donc, je pense que je suis comme entre les deux. Même si je préfère les sagas au one-shot, j'aime quand j'ai le temps vraiment de m'attacher au personnage. Je pense que je suis vraiment entre les deux.
Est-ce que celle que tu as laissée de côté, c'est La chasseuse et l'alchimiste?
Non. Ah, non, celle-là, ça va, mais oui, c'est long. Mais j'aime bien comment c'est écrit, donc ça va. Je pense que des fois, on peut rattraper avec les personnages, ce genre de choses-là. Mais les sagas que j'ai laissées, c'est Bone Season de Samantha Shannon et Three Dark Crowns, mais je ne sais plus le nom de l'autrice.
Après, perso, j'aime les pavés, mais j'aime pas 200 pages d'exposition. Hein. Genre, par exemple, La Passe-Miroir, j'ai pas accroché de fou et j'ai dû reprendre le livre 3 fois parce que je l'ai trouvé très très long à démarrer. Mais il y a d'autres romans pavés où je trouve qu'il n'y a pas 200 pages d'exposition. Voilà, c'est pour le coup, moi aussi ça me saoule en vrai, hein, ça m'ennuie.
Mais pour le coup, La Passe-Miroir, je suis mitigée comme toi dans le sens où ça met vraiment du temps à démarrer. Et moi aussi, c'est vrai que le premier tome, j'ai mis 3 étoiles parce que c'était super, c'est bien écrit, mais c'était long. Et ça m'a pas fait le coup, par exemple, pour les autres, si jamais... Je sais pas si t'as lu la suite.
Oui, je les ai tous lus. Ouais. Mais c'est surtout pour le premier, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 200 pages au milieu qui sont inutiles. Enfin, au milieu, surtout.
Ouais, il se passe pas grand-chose. Ouais. Mais je suis en train de le relire, et comme je connais l'histoire, je me dis, ah, finalement, c'est moins long que ce que j'imaginais la première fois que j'ai lu. C'est bizarre, mais en tout cas, Passe-Miroir, meilleur livre.
Je voulais revenir sur le fait que vous aimez bien les longues sagas, parce que en fait moi je suis c'est ultra compliqué mon truc, parce que j'aime les lectures courtes et tout, mais j'adore les sagas, c'est-à-dire que j'adore les histoires qui durent dans le temps avec des univers étendus. Mais du coup c'est pour ça que moi du coup j'ai une saga de romans courts, en fait. Du coup c'est en fait j'ai même pas essayé l'édition traditionnelle parce que je me voyais pas défendre ça, quoi. Je me suis dit il fallait que je le fasse, ce projet, parce que l'expliquer c'est trop compliqué, il faut que je le fasse pour voir ce que ça donne. Et du coup donc moi voilà, j'adore les sagas mais j'aime pas les gros pavés. Du coup j'aime bien mon histoire, elle est super longue, la trame sur voilà, elle s'étale vraiment, il y a beaucoup de choses à raconter, mais ce sera toujours par une superposition de petites unités dramatiques. Je pense que ce sera difficile pour moi, peut-être que ça va se rallonger avec le temps, mais je pense que j'arriverai pas à de gigantesques pavés quand même au final, quoi.
Mais du coup on aura quand même la possibilité de vraiment s'attacher à tes personnages, ce qui serait plus difficile sur un one-shot très très court. Là, vu que tes personnages, on va quand même les voir sur beaucoup de tomes, même si les tomes en eux-mêmes sont courts, on va apprendre à les connaître au fur et à mesure. Donc c'est encore... je pense que toi, t'es entre les deux.
En fait, t'as le meilleur des deux,
c'est
comme Anna Montana.
C'est un entre-deux, hein, c'est ça, c'est un peu ça, je suis un peu du côté de ceux qui écrivent des trucs énormes, mais je suis aussi du côté de ceux qui écrivent des petits trucs, quoi, parce que sur l'aspect saga, c'est très grand, et puis sur l'aspect petites histoires, sur l'aspect local, quoi, on va dire, c'est vraiment petit, donc voilà, c'est les deux en même temps, du coup, j'ai les problèmes des deux groupes qui me tombent dessus comme ça.
Super intéressant, on a parlé un petit peu de qui a fait en sorte qu'on avait ce genre de peur-là, les réseaux sociaux, la comparaison, le fait que sur les réseaux, on parle énormément du nombre de mots, et d'ailleurs, on contribue un peu à ça en faisant la table ronde. Mais je voulais savoir, de quelle façon est-ce que ces peurs-là vous affectent dans votre écriture? Est-ce que ça vous met un frein, ou est-ce que vous êtes capable un peu de l'écarter?
Alors du coup, moi, j'en ai parlé un peu avec mon contemporain One Shot. Ça m'a fait perdre mon atout principal qui était les personnages. Enfin, je pense, hein, sans m'en rendre compte, après, avec le recul, c'est peut-être ça. Donc, pour autant, à ce moment-là, j'étais pas non plus super stressée parce que je m'étais dit, oh, je vais faire un roman de 50 000 mots, finalement, je suis allée au-delà. Et peut-être que en me rendant compte au fur et à mesure que je commençais à gonfler, 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 que j'étais à 50 000 mots et que j'étais pas du tout à la moitié, j'ai commencé un petit peu à paniquer. Et je me suis rendu compte que du coup, j'ai un peu précipité la fin. Donc, ça m'a un peu affectée en ça. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression limite que j'ai plus le temps, quoi. Avant, je me disais, ouais, tranquille. Enfin, je me posais pas la question, en fait, d'écrire ce que j'avais envie. Puis au pire, voilà, je rectifiais après. Et maintenant, je suis en mode, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui est utile, inutile? Est-ce que... En fait, je me pose beaucoup plus de questions pendant le premier G, j'ai l'impression. Même si là, ça fait au moins un an que j'ai pas fait le premier G. J'ai fait que des réécritures. Donc, à voir prochainement. Mais j'ai l'impression que ça me turlupine et que je suis en mode, bon, je pars direct avec, s'il te plaît, fais pas 180 000 mots. Et pourtant, à chaque fois, j'y arrive, hein, mais... Désespoir, quoi. Voilà. Ça me sape ma confiance et ça, j'ai l'impression que ça me bride un peu ma créativité en ce moment, donc j'essaie de travailler ça aussi.
Encore une fois, je trouve qu'on se retrouve sur des côtés contraires parce que moi, la peur du nombre de mots, elle m'affecte uniquement pendant la réécriture et non pas pendant le premier jet. J'y pense pas beaucoup pendant le premier jet, mais de la manière que ça se manifeste, moi, dans ma réécriture, c'est que j'ai l'impression que je suis pas capable de me faire confiance sur qu'est-ce que je devrais ajouter et comment l'ajouter. Le fait de voir que mon manuscrit est petit, c'est ça, j'en ai parlé tantôt, c'est difficile de voir si ce qu'on ajoute, ça améliore réellement ou si ça ralentit ou si c'est nécessaire. Donc, c'est ça, moi, ça se traduit vraiment comme un manque de confiance de ma propre vision de mon roman. Donc, j'ai bien hâte à un futur où je vais parler à des bêta-lectoristes parce que à chaque fois, je suis comme, est-ce que le problème que je vois, il est vraiment aussi gros que je me l'imagine, ou c'est juste parce que je sais que techniquement, avec mon nombre de mots, ben, je me dis, oh, mais c'est sûr que tes personnages, ils sont pas attachants, c'est sûr que le rythme, ça va trop vite, mais peut-être que non, peut-être que non. Donc, c'est comme ça que ça m'affecte, moi.
Alors, moi, c'est un peu comme Mali, du coup. Enfin, c'est normal, vu qu'on se retrouve sur le nombre de mots, hein, je pense. Alors, là, maintenant, j'ai réussi à prendre un peu de recul et à être un peu plus zen vis-à-vis de mon nombre de mots, je pense parce que j'ai décidé de le couper en deux, du coup, ce roman. Mais c'est vrai que les premiers mois, parce que ça fait un an, du coup, que je suis dessus, hein, les premiers mois, ben, en fait, j'avais l'œil tout le temps sur mon nombre de mots. Et je voyais ce nombre de mots grossir beaucoup trop vite par rapport à l'estimation que j'avais faite, et qui était déjà une grosse estimation, et donc ça me stressait en fait de voir que bah, qu'en fait j'écrivais beaucoup plus que ce que j'avais prévu, et que si je faisais ça déjà sur les premiers chapitres, bah, arrivé à la fin, il y allait y avoir beaucoup, 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 beaucoup plus de mots que prévu. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a énormément stressée. Ça m'a crispée sur mon premier jet, en fait, parce que je regardais tout le temps. Je regardais où j'en étais, et je me suis aussi beaucoup posé des questions à des moments où je me rendais compte qu'il manquait quelque chose dans l'histoire, à me dire, bah oui, bah alors là, je passe de ce chapitre-là, de cette action à celle-là, mais en fait, dans mon plan, j'ai un trou. J'aurais dû rajouter une scène ou j'aurais dû rajouter quelque chose. Et là, bah, la grosse frayeur, c'est « Oh, encore que je rajoute des choses !» Et le fond, encore que je rajoute des choses, il est horrible. Tout comme j'ai, dans mon plan, j'ai un chapitre où j'avais prévu un certain nombre d'actions qui devaient se passer ou d'informations à donner. Et en l'écrivant, ce chapitre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas un chapitre, c'était quatre chapitres. Et donc là, et ben c'est pareil, si on passe d'une estimation de un chapitre à 4000 mots à quatre chapitres de 4000 mots, c'est plus pareil. Et donc, ouais, non, les premiers mois, ça a été très compliqué pour moi parce que je voyais mon nombre de mots grossir trop vite. Et puis, il y a eu un moment, on va dire, charnière où, ben là, ça y est, j'ai compris que c'était mort. La publication en un seul tome, c'était foutu. Et bizarrement, ça m'a fait du bien parce que j'ai arrêté de m'inquiéter de la taille de mes chapitres, du nombre de chapitres que je rajoutais, des informations que j'avais pas prévues et qui devaient être ajoutées parce qu'effectivement c'était plus cohérent pour l'histoire et c'était nécessaire. Et en fait, il y a eu un moment où, voilà, à partir du moment où je me suis dit ça va pas être un tome, ça va être deux tomes, j'ai arrêté de me prendre la tête et depuis ça va beaucoup mieux.
Donc ouais, du coup, pour revenir sur cette peur, un petit peu la façon dont elle se manifeste, moi c'est vrai que c'est un peu angoissant parce que du coup, la saga étant très longue, Voilà, parce que quand on est lecteur, on a une pale, on a une pile à lire, mais quand on est auteur, on a, je sais pas, une espèce de paf, une pile à faire. Donc on a tout un tas de projets qu'on a envie de qu'on a envie de d'éditer, de voir, de faire donner vie, quoi. Et du coup, quand on écrit un truc trop grand, on se dit, mais ça va me prendre combien de temps? Ça va me prendre des années, et puis je vois tous les autres projets qui attendent derrière, et des fois j'en rajoute des nouveaux, et ça me fait peur en fait. Et du coup, je me dis combien de temps je vais passer sur ce projet, et voilà. Donc c'est un petit peu difficile de ce côté-là. Donc c'est vrai que des fois ça bloque un petit peu l'écriture, et on a des phases un peu, on est dans le vide comme ça. On se dit, on réalise le temps qu'on a mis déjà pour faire une première partie du chemin, et on se dit, bah voilà, il faut multiplier par le nombre de tomes, ou le voilà, et c'est vrai que ça fait peur, quoi.
Ouais, de mon côté, pendant le premier jet, je me suis pas trop attardée sur mon nombre de mots. Je le remarquais parce que je faisais des sprints d'écriture avec Liana, d'ailleurs, sur Discord, donc faut rentrer ton nombre de mots dans ce temps-là, donc tu le vois. Par contre, à part à la fin, où en plus j'étais en train de faire Molanta, donc on devait écrire vite pour le défi, j'ai pas eu la sensation d'aller trop vite dans mes scènes. Tu sais, je mettais le nombre de mots que j'avais besoin de mettre. Sauf qu'en réécriture, je me suis mis à stresser pendant la première, parce que je voyais que, ben en fait, je m'étais dit, je vais réduire le nombre de mots, et je faisais tout le contraire. J'en ai rajouté quand même 20 000. Je m'étais dit, non, pas plus que 5 000. Non, non, non. Et là, ça montait. Et ça me stressait. Je me disais, est-ce que après je vais être capable de revenir au moins à 160 000? Parce que déjà là, je trouvais que c'était trop. Et en plus, on m'avait dit, des éditeurs m'avaient dit, en fait, il faudrait que peut-être que tu réduises de 10% ton manuscrit, parce que souvent, il y a du superflu. Et là, je vois que c'est vrai. Mais je n'étais pas certaine si j'allais y arriver, donc je m'étais mis à stresser. Et c'est vrai que, Paul, tu m'as fait penser à un truc, mais personnellement, j'ai beaucoup d'idées de saga. Et ben, j'ai pas envie nécessairement de passer 10 ans sur une, parce que j'ai envie d'écrire toutes les idées de saga que j'ai. Donc, il y a ça, et vu que j'écris des gros tomes, ben, ça prend du temps. Donc, moi, ça serait ça, un peu ce qui m'affecte par rapport à ma peur d'écrire trop de mots.
De mon côté, je dois avouer que j'ai pas vraiment de peur lorsque j'écris par rapport à ce fameux nombre de mots. Il y a toujours ce truc quand je suis en premier jet de me dire, de toute façon, on verra la réécriture. Généralement, la réécriture, j'arrive à rajouter 20-25 000 mots. Et en plus de ça, du coup, ça c'est quand on fait sa réécriture perso. Et là, je l'ai déjà vu en correction éditoriale, on rajoute encore plus de mots généralement. Ce qui s'est passé pour l'engrangement, c'est que mes éditrices me disaient « Oh, il faut que tu expliques plus tel concept, il faut que tu expliques peut-être plus ça, et finalement, il y a des choses auxquelles on pense, donc on va rajouter plus de mots. » C'est vrai que dans mon cas, c'est pas arrivé qu'on en supprime, c'est plus arrivé qu'on en rajoute. Et comme je sais que c'est un processus, en fait, vraiment de va-et-vient, un coup éditrice, un coup moi, etc., je sais que finalement, ça me stresse pas trop ce nombre de mots. Et pour avoir vécu les corrections éditoriales, je suis bien contente de ne pas avoir beaucoup de mots, parce que rien que déjà 75 000 mots, c'était un travail de dingue, mais 160 000 mots, 200 000 mots, enfin, j'imagine pas le travail.
Oui, vous avez mon admiration.
Alors, en vrai, ça panique un peu, ouais. Enfin, moi, quand je me dis je dois réécrire ne serait-ce qu'après mon premier jet, ma première écriture, ou même relecture, ben, je me dis, quand je mets sur ma liseuse mon livre une fois que j'ai fini le premier jet, parce que je préfère changer de support pour relire, et que je vois 16h, 18h, ça monte de lecture, 16h, 18h de lecture, je suis en mode ah ouais.
Ah ouais. Ouais, je comprends. J'ai pas cet outil-là, donc. Mais tant mieux, je pense.
Franchement, c'est super
pratique. J'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça.
Ouais, ouais. Tu le convertis dans le logiciel Calibre. Et en fait, moi, je relis, parce que sinon, ça me flingue les yeux sur l'ordi de passer des heures sur un texte comme ça. Et du coup, j'ai mon ordi je suis sur mon ordi, je lis sur ma liseuse, et en fait, je fais les modifications directes sur mon ordi où je mets des commentaires. Mais je lis sur ma liseuse, et ça fait trop du bien aux yeux. Même pour la bêta lecture, d'ailleurs.
C'est vraiment une bonne idée.
Ouais. Pour la bêta lecture, je faisais de la bêta lecture pour une maison d'édition, je faisais ça aussi. où je me souviens que quand j'ai coupé mes tomes de Passeurs de rêve en deux parce qu'ils étaient soi-disant trop longs, j'ai voulu équilibrer les tomes. J'ai voulu trouver un milieu à peu près où c'était passible de coupage. Ça se dit pas du tout, c'est pas grave. Après, je me suis rendu compte, par exemple, que le tome 2, du coup, qui était de la deuxième partie du tome 1 initial, était tout petit par rapport aux autres. Et en fait, du coup, j'ai rajouté des scènes en me disant, bon, à la fois, il faut que ce soit des trucs utiles pour que je rajoute pas du vent. D'un autre côté, il ne faut pas que ce soit des trucs qui bouleversent toute l'intrigue, sinon je vais devoir me cogner toute la réécriture des tomes d'après que j'avais déjà écrit. Du coup, j'ai trouvé un peu un entre-deux où, en fait, c'est une enquête sur la trilogie, donc j'ai trouvé des moyens de faire que mon héroïne, elle a des pistes qui finalement manquaient. Parce que finalement, maintenant, quand j'ai refusionné les tomes et que j'ai éradiqué un peu le superflu, ces scènes que j'avais ajoutées pour atteindre le même nombre de mots approximatifs, en fait, je les ai laissées parce qu'au final, elles étaient super utiles pour le reste. Mais c'était vraiment la seule fois, je crois, où j'ai dû rajouter des mots en me disant « c'est pas très équilibré ». Et sûrement la dernière fois, d'ailleurs.
Alors, c'est marrant. Moi, j'ai aussi regardé où j'allais couper mon histoire. Je me suis pas fiée à la taille du roman en lui-même. J'ai vraiment cherché à quel moment c'était le plus judicieux pour l'intrigue. Et c'est aussi un truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'effectivement, mon premier tome va être plus court, pour le coup, que le deuxième. Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi un problème d'avoir des tomes qui vont pas être équilibrés?
Après, je trouve que c'est pas bien grave pour... On voit souvent des tomes 1 plus courts que la suite. Je sais pas pourquoi, c'est Harry Potter qui me vient en tête où le 1, 2, 3 sont très courts. Et il y a par exemple le cinquième, je pense que c'est le plus gros. Puis je trouve pas ça très choquant d'avoir des tomes qui sont pas du tout de la même taille.
Mais c'est vrai que souvent, moi j'ai entendu des reproches comme quoi, dans une trilogie par exemple, des fois le tome 2 est une espèce de transition entre le 1 et le 3, et que du coup les gens trouvent qu'il est, souvent il est un peu plus court, et du coup les gens peuvent dire ouais il est un peu inutile. Je pense que c'est aussi cette peur que j'avais eue, de me dire ouais ce tome 2 il était petit, bon du coup il y avait 6 tomes derrière, mais c'est aussi pour ça où je m'étais dit ouais en vrai ça fait bizarre, est-ce qu'il sert à quelque chose au final quoi.
Moi, je tiens à donner du love au tome 2 parce que je suis vraiment une lectrice de tome 2. C'est toujours mes préférés, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je vois tout le monde dire ça sur les tomes 2. Puis je suis comme, non, moi, je vous aime, je vous aime.
Oui, c'est vrai, moi aussi. Je sais pas pourquoi, l'exemple que j'ai, c'est celui de Grisha, où le tome 2, je trouve qu'il se passe rien. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, par exemple, quand je réfléchis pour ma trilogie à moi, je me dis... Le tome 2, il se passe quand même beaucoup de choses. J'espère que les gens ne penseront pas que c'est un tome de transition parce que ce n'est pas le cas.
Le roi maléfique, j'ai préféré le tome 2 au 3. Petit exemple.
Et en plus, les tomes 2, moi, je trouve que c'est super important, en fait, parce que souvent, c'est le cœur de l'histoire. C'est souvent, parce que le tome 3, souvent, c'est la bataille finale ou c'est les gros conflits un petit peu qui arrivent à leur paroxysme. Mais je trouve le tome 2, les tomes 2, souvent, c'est là où on développe le plus les relations. C'est là où on est dans la plupart plongé au cœur des péripéties, un peu. Donc moi, je trouve que c'est des tomes, c'est capital, quoi, dans une saga, je trouve, un tome 2.
Oui.
Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'adore les tomes 2. Plein de love.
Parfait. J'avais aussi une question, mais je pense qu'on l'a un petit peu abordée au final, de manière un peu filée. Je voulais vous demander d'où est-ce que ces peurs-là vous viennent? T'sais, par exemple, commentaires reçus, des mythes entendus, conseils que vous avez reçus. On a un peu abordé, mais si vous avez quelque chose de plus à dire, allez-y.
Alors, moi, c'est simple. Je passe ma vie à critiquer des livres. C'est ça que je fais le plus. Et donc, quand on passe sa vie à dire que tel truc n'était pas assez approfondi ou que tel truc était trop lent, ben après ça, d'avoir tous ces exemples en tête de choses que je n'aimerais pas faire, ça met énormément pression de les faire ou de pas les faire ensuite. Donc, je veux réussir à régler les problèmes que je reproche ensuite en tant que lectrice aux autres. Et c'est ça, le nombre de mots, il se mêle à ça parce que les critiques, souvent, c'est à propos du rythme des personnages. Donc, c'est vraiment entremêlé entre le fait que je passe ma vie à parler des livres des autres et je sais que le mien ne sera pas parfait, mais j'ai vraiment le stress de faire en sorte que ben, je ne sois pas totalement hypocrite dans mes critiques, quoi.
Moi, j'ai déjà un petit peu donné...
Ok.
J'ai parlé de notamment du commentaire sur le dossier de soumission envoyé à l'ICA, ce qu'on entend un peu partout. Et puis, il y a juste une chose peut-être que je n'ai pas mentionnée, c'est effectivement les commentaires. À chaque fois que je donne mon nombre de mots, la première réaction, c'est « Oh, mais c'est trop long, va falloir que tu coupes !» Oui, bah, c'est trop long, va falloir que
je coupe. J'avoue, j'ai réagi comme ça.
Ouais, ou des fois, quelqu'un me parle, par exemple, dans une conversation à plusieurs de son nombre de mots, et là, c'est comme « Ah, oh, mon roman fait 100 000 mots, c'est beaucoup trop long! » Et oui, c'est long, puis c'est pas pour diminuer le fait qu'il y a 100 000 mots, mais moi, je me dis « Ok, mais moi, d'abord, qu'est-ce que c'est? D'abord, mon roman, c'est beaucoup trop long! » Donc, des fois, les discussions peuvent exacerber nos peurs, je pense. Et quand j'en parle aussi, comme toi, Liana, j'ai ce genre de réaction aussi. Et me dire de faire couper mon roman, c'est arrivé, je pense, des dizaines de fois, alors que c'est impossible. Donc, je comprends.
Après, je ne sais pas si c'est la période qui veut ça, etc. Mais surtout en fantasy, je trouve que de plus en plus, on publie des pavés. Rien que le Pieuré de l'Oranger ou des choses comme ça, ou le plus gros que j'ai dans ma bibliothèque, je pense, c'est l'Empire du Vampire qui doit faire presque 1000 pages. Des pages toutes petites, et écrit vraiment petit. Mais c'est vrai que, bon, après, voilà, ça reste des traductions, et je sais que le monde de l'édition en France est quand même assez compliqué. Mais je trouve que, vu que l'imaginaire se développe de plus en plus en France, j'ai un peu l'impression qu'on est de plus en plus OK avec les pavés, et je pense même, bah voilà, ça dépend des lecteurs, mais je pense même que les lecteurs adorent ça, de plus en plus, en tout cas, au niveau de l'imaginaire.
Je suis d'accord avec toi, je pense que les lecteurs, au niveau de l'imaginaire, adorent ça, mais comme tu l'as mentionné, en fait, les très très gros pavés qu'on trouve en librairie, c'est des traductions, c'est des choses qui ont déjà du succès à l'étranger. Et donc, du coup, les éditeurs, ils y vont un peu les yeux fermés en disant « Oui, bah, c'est bon, ça va marcher. » Quand on est un jeune auteur, c'est plus compliqué d'arriver avec le même pavé et de se dire « Ben, voilà, moi, je sors de ma petite grotte, publiez-moi. »
Ouais, c'est ça. Et moi, ce que je trouve compliqué, en fait, c'est réussir à lier les attentes du milieu et ses envies personnelles un petit peu. Parce que, bah voilà, comme disait Camilla, son nombre de mots, voilà, il va peut-être pas forcément trop bouger. Et en fait, ouais, c'est ça, il faut réussir à trouver la liberté de raconter ce qu'on veut, un petit peu de faire les choses à sa façon, et en même temps, voilà, de réussir à répondre un peu aux codes, aux exigences, peut-être, des process éditoriaux. Et voilà, moi je trouve que c'est ça, en fait, qui est dur un peu à avaler. Souvent, on se dit... on se dit « Ok, c'est plutôt ça qu'ils attendent, et moi je suis plutôt en train de faire ça, ça a l'air d'être opposé. » Mais voilà, mais je trouve que c'est quand même important d'essayer de se battre avec son truc, même s'il ne rentre pas dans les clous, je trouve que ça vaut le coup quand même de se dire « Eh ben allez, vas-y, j'y vais, je tente, parce que c'est mon truc, je l'ai pensé comme ça. » Et puis voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un ovni, dans le sens parce que soit il est trop grand ou parce qu'il est trop court, mais voilà, j'essaye quand même, parce que voilà, je vois un truc dans le fait que ça dure aussi longtemps, c'est pour une raison, etc. Donc voilà, je trouve que c'est... Il y a ce dilemme-là, mais je trouve que c'est important de se battre un peu pour essayer de défendre son truc, quoi.
Oui, du coup, je pense que les éditeurs, de toute façon, quand ils reçoivent un manuscrit, même s'il est gros, ils repèrent rapidement si le nombre de mots, c'est vraiment du superflu ou pas, ou si vraiment ça vaut le coup, enfin, s'il y a du potentiel quand même malgré le nombre de mots. Je pense que dans tous les cas, ils privilégient le potentiel et la qualité du manuscrit, même si voilà, ça dépasse peut-être leur standard. J'en sais rien, mais je pense que c'est quand même ça le plus important.
Alors, on va enchaîner avec le dernier point que j'avais envie de vous demander. C'est pas une question que je vous avais envoyée à l'avance, mais est-ce que vous avez comme un petit dernier mot de la fin, un petit encouragement pour les auditrices par rapport à ce sujet-là?
Ben, moi, je trouve que ce podcast démontre très bien, c'est que peu importe dans quel côté on se retrouve, on a des problèmes. L'écriture nous fait souffrir, peu importe on se trouve où. Je sais pas si c'est les encouragements que tu demandais pour les gens qui écoutent, mais en même temps, je trouve ça encourageant de savoir que c'est l'herbe, elle est pas plus verte de l'autre côté. Il y a quand même des problèmes qui sont propres à notre livre, peu importe qu'est-ce qu'il est. Donc, comme Paul a dit tout à l'heure, je trouve que c'est bien de vraiment se concentrer sur ce que notre livre est et pas tenter de faire autre chose.
Alors moi du coup, c'est ça, je voulais rebondir aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'il faut penser aussi au fait que les réseaux sociaux mettent beaucoup de pression. Je sais que, voilà, on en parlait tout à l'heure, je sais que des fois aussi j'en parle avec certaines personnes qui disaient... Avant les réseaux sociaux, je pensais pas du tout au nombre de mots, avant de penser à me faire éditer non plus. Et après, c'est vrai que sur les petits manuscrits, c'est vrai que généralement, c'est malheureusement, heureusement, plus simple de se faire éditer parce que justement, ça fait moins peur aux éditeurs. Mais après, ça reste que les gros manuscrits, généralement, c'est toujours possible de faire quelque chose de toute façon. Donc, que ça soit le couper, que ça soit, séparer les tomes, etc. Donc, je pense que le plus important, c'est vraiment d'écrire ce qu'on a envie d'écrire parce que, de toute façon, on fait ça pour nous de base, même si on a envie de partager l'écriture, partager nos écrits, etc. C'est clair que, de base, on fait ça vraiment pour nous et il faut d'abord penser à soi, à l'histoire qu'on a envie d'écrire, au personnage. Et puis après, dans un second temps, vraiment... réfléchir à la publication et à l'édition. Et c'est ça, de toute façon, prenez du plaisir, essayez de ne pas stresser, même si c'est difficile, et il y a toujours des solutions, que ce soit petit manuscrit ou gros manuscrit.
Ben moi, je vais rebondir un peu là-dessus, parce que je suis totalement d'accord avec toi, Nel. Je pense qu'effectivement, le plus important, c'est de prendre du plaisir à écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire. Et puis, il faut arrêter, enfin, il faut qu'on essaye d'arrêter de se prendre la tête avec ce nombre de mots parce que elle aura le nombre de mots qu'il lui faut. Si on a besoin d'écrire une histoire en 50 000 mots, et ben, elle sera écrite en 50 000 mots. Et si pour la raconter, il en faut 200 000, et ben, il faut ces 200 000 mots, quoi qu'il arrive. Et si l'histoire vaut le coup, peu importe sa taille, elle trouvera son public.
Et ouais, bah du coup, ouais, donc je suis parfaitement d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Donc c'est ça en fait. C'est vrai que l'édition a des standards. Hein, ça, c'est quand même plutôt un fait. Il y a des choses qui, voilà, quand c'est plus court, quand c'est plus machin, ça va. Il y a plus de chances que ça aboutisse. Je pense que c'est vrai. Mais voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine souplesse quand il y a de la qualité, quand il y a un projet derrière, quand il y a une vision derrière. Moi, je pense qu'ils peuvent faire preuve de souplesse quand ils croient en un projet. Qu'il y a des forces, même s'ils rentrent pas tout à fait dans ce qui était attendu. Voilà. Des fois, ça peut marcher. Et donc, en plus, il y a d'autres. Maintenant, il y a aussi d'autres solutions. Hein, quand les projets sont vraiment très particuliers, on peut aussi prendre la décision de l'éditer soi-même. Donc voilà, moi je pense qu'au final, c'est le plaisir qui doit quand même passer avant tout le reste. Et voilà, il faut se battre un peu pour essayer d'emmener sa voix de la façon dont on l'a imaginé. Je trouve que c'est quand même important. C'est ok, il y a des standards, on attend des choses, mais voilà, mais moi j'ai aussi envie de faire quelque chose qui me ressemble, qui m'appartient. Et puis on met son livre quelque part dans le monde, donc c'est quand même mieux. Qui ressemble le plus possible à ce qu'on avait imaginé, quoi. Qu'on se dise pas, ok, j'ai fait un truc parce que ça respectait les standards, mais voilà, et qu'on ait le sentiment de s'être trahi un petit peu ou de pas s'être respecté autant qu'on l'aurait espéré, quoi. Donc voilà, il faut se battre et croire en ses projets.
Je valide ce qui a été dit.
Ok, ben merci pour vos petits mots de la fin. Je pense que c'était vraiment encourageant. Et merci d'être venu sur le podcast. Je trouve que c'était une discussion super intéressante. C'est sûr qu'on n'a pas amené des solutions parce que je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Mais d'en parler, je trouve que c'est toujours intéressant. Et voilà, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Merci de nous avoir invités. C'était intéressant.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.